Vous vous réunissez pour la 100e fois au sein de ce Parlement mondial du travail pour réaffirmer la nécessité d'une protection internationale des conditions de travail et pour œuvrer en faveur des droits sociaux des femmes et des hommes. C'est aussi pour moi l'occasion de montrer l'attachement et le soutien de la Suisse à l'Organisation internationale du travail. Au nom du Conseil fédéral suisse, au nom de la Genève internationale, au nom des Suissesses et des Suisses, je rends hommage à l'engagement inlassable de l'Organisation internationale du travail et de ses membres. À titre liminaire, je tiens aussi à saluer M. Robert Nickli, président de la conférence, que je félicite de son élection. Et je tiens également à saluer M. Juan Somavia, directeur général, auquel je renouvelle mes vœux de plein succès dans ses très importantes fonctions. Mesdames et messieurs, au sein des organisations internationales, l'OIT fait figure de patriarche. Créée en 1919, c'est l'organisation internationale la plus ancienne du système des Nations Unies. Et pourtant, elle est étonnamment moderne, car elle a été dotée dès l'origine d'un mandat et de structures particulièrement novatrices. Presque 100 ans après sa création, l'OIT demeure un modèle pour la gouvernance internationale. L'OIT est exemplaire dans sa structure et dans ses procédures de travail. Sa structure tripartite constitue aujourd'hui encore l'une des principales forces de l'OIT. Elle est un modèle dans la mesure où l'un des défis principaux de la gouvernance mondiale d'aujourd'hui est d'impliquer tous les acteurs concernés. Le discours politique insiste énormément sur la coopération internationale. Or, la gouvernance internationale reste fragmentée et peu efficace. Au sein des gouvernements nationaux comme des organisations multilatérales, les changements politiques concrets nécessitent de gros efforts et des renouvellements institutionnels d'envergure. Nous vivons, mesdames et messieurs, dans un monde polycentrique où les processus locaux, nationaux, régionaux et globaux sont liés. Dans un monde interconnecté, les décisions d'un État ont aussi des effets sur d'autres États. Et c'est la raison pour laquelle il convient de tendre à une pluralisation de notre modèle de gouvernance, en ménageant une place à côté des États-nations, aux gouvernements locaux, aux agences multilatérales, aux acteurs transnationaux, aux forums d'affaires, aux organisations non gouvernementales, aux sociétés civiles et aux groupes de défense des droits humains et de plaidoyer. La Suisse a fait l'expérience, comme d'autres pays, de décennies de lutte de classe, jusqu'en 1936, où les partenaires sociaux ont conclu la paix du travail, où les travailleurs ont renoncé au droit de grève en échange du droit de négocier les conventions collectives de travail. Cette paix du travail s'inspirant d'ailleurs des mécanismes tels le tripartisme et le dialogue qui ont fait leur preuve et qui continuent de faire leur preuve ici, à l'Organisation internationale du travail. Les infrastructures institutionnelles et culturelles de nos sociétés devront passer par des mutations comparables aux transformations subies pendant la première révolution industrielle. Mais mesdames et messieurs, au-delà des questions de structure, permettez-moi de relever encore et aussi la modernité de la vision qui a présidé à la création de l'Organisation internationale du travail, cette dernière ayant été investie de la mission d'assurer la justice sociale, complémentaire et garante de la paix universelle dont le maintien a été confié à la Société des Nations. Cette préoccupation de justice sociale était inscrite explicitement dans la constitution de cette organisation qui affirme, je cite, qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Mesdames et messieurs, en ce début du XXIe siècle, la question de la justice sociale se pose avec une acuité toute nouvelle. Permettez-moi de souligner ici ces multiples dimensions. La justice sociale, c'est d'abord le respect de deux principes fondamentaux de la Déclaration universelle des droits humains. Le principe selon lequel tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et le principe d'une jouissance égale des droits, sans discrimination aucune, notamment de race, de sexe ou de fortune. La justice sociale implique un droit à la dignité et une égalité réelle des chances. Elle suppose que les populations les plus pauvres aient des chances d'améliorer leur situation et que les femmes et les hommes aient accès sur un pied d'égalité à l'éducation, à la santé et à des conditions de vie décentes. Par justice sociale, nous comprenons aussi davantage d'équité dans l'accès aux ressources naturelles et dans leur utilisation. Un quart de la population du monde consomme les trois quarts de ses ressources. Comment disposer d'eau potable, de nourriture, de matières premières, de ressources naturelles et énergétiques en quantité suffisante et à un coût accessible pour répondre aux besoins de bientôt 7 milliards d'êtres humains? Comment rendre le développement équitable et que veut dire la justice sociale dans notre siècle, au 21e siècle? Mesdames et messieurs, en appelant à la justice sociale, j'appelle aussi à une équité entre les régions du monde et entre les générations. La justice sociale est en effet condition d'un développement durable généralisé. Étant entendu que si notre mode de vie n'est pas durable, alors nous sommes forcément injustes à l'égard de certaines populations du monde. Pourquoi ? Parce que notre mode de vie ne peut pas leur être généralisé et parce que notre mode de vie ne peut pas être étendu aux générations futures. Et par conséquent, les solutions que nous recherchons doivent être justes et équitables à l'échelle de la planète tout entière. L'intégration économique et sociale de notre monde rendrait illusoire une justice qui se limiterait aux frontières nationales ou régionales. Nous devons nous efforcer de trouver, sur le plan global, des arrangements institutionnels et des politiques capables d'améliorer la situation des personnes vivant dans des conditions de pauvreté extrême et de garantir que la distribution des ressources et des chances maximise de façon durable la liberté réelle dont jouissent les personnes les plus vulnérables, peu importe où elles vivent sur notre planète. Toutes les solutions visant à une plus grande durabilité auront un impact variable sur les gens et impliqueront un partage des responsabilités au sein des générations et entre elles. Et cette transition appelle une responsabilité fondée sur l'intérêt collectif d'une communauté et la disposition à une réflexion commune sur les valeurs, sur les priorités et sur la justice. Enfin, mesdames et messieurs, la justice sociale requiert un socle fondamental de protection sociale. On estime que seuls 20% de la population mondiale en âge de travailler a accès à un système de protection sociale. C'est non seulement une grave injustice, mais c'est aussi un danger pour la stabilité économique. La protection sociale constitue un instrument fondamental pour absorber les chocs et pour garantir une meilleure résilience économique. Aussi, je tiens à saluer et à exprimer le plein appui de la Suisse à l'initiative en faveur d'un seuil de protection sociale développé par l'Organisation internationale du travail et par l'Organisation mondiale de la santé. Je tiens aussi à remercier d'ores et déjà votre Assemblée pour l'approbation qu'elle ne manquera pas d'apporter à la 189e Convention, approbation destinée à ouvrir aux 100 millions d'employés de maisons l'accès à tous les droits économiques et sociaux. Ils seront ainsi reconnus comme toute autre catégorie de travailleurs et de travailleuses avec des droits, un cadre juridique et une protection sociale. Mesdames et messieurs, l'OIT joue un rôle central dans les questions internationales relatives à l'emploi et au travail. Et ce rôle doit être renforcé. Il appartient à l'OIT de s'engager corps et âme dans une approche multilatérale cohérente des politiques économiques, sociales, commerciales et financières, en renforçant les moyens qui lui sont propres et en invitant au dialogue international. Il n'y a pas de gouvernance mondiale équitable sans l'OIT. Et je plaide ici pour que l'OIT revendique le statut d'observateur à l'Organisation mondiale du commerce. C'est la clé qui ouvre la porte vers plus de cohérence et vers une coopération plus étroite entre les deux institutions. J'ai de plus l'intime conviction que le respect des normes fondamentales du travail passe par un renforcement de la politique normative de l'OIT et des mécanismes de contrôle de ces normes, et ce pour éviter des interprétations divergentes au gré des choix politiques ou économiques. Nous devons nous attaquer avec détermination afin de favoriser la clarté et la sécurité du droit par exemple par la mise en place d'une instance chargée de dire le droit. Je vous invite à poursuivre vos réflexions à ce sujet pour renforcer la sécurité du droit social international face aux autres réglementations multilatérales. L'impact de ces actions ne se mesurera pas principalement à l'aune internationale, mais elles auront des effets au plan national. Et je suis convaincue que si les procédures de contrôle sont simplifiées, accélérées, précisées, elles permettront que les violations graves aux normes du travail ne restent pas lettre morte, surtout lorsqu'un pays tire un avantage politique ou commercial indu de telles violations. Mesdames et messieurs, la Suisse va siéger au conseil d'administration de l'OIT de 2011 à 2014 et je remercie les États qui ont voté en faveur de mon pays. La Suisse a ratifié en février 2011 la Convention sur le travail maritime adoptée par votre conférence en 2006. J'ai enfin le plaisir et l'honneur de vous annoncer que les partenaires sociaux suisses se sont mis d'accord pour que la Suisse ratifie la Convention de l'OIT numéro 122 sur la politique de l'emploi. Je salue cet accord entre partenaires sociaux qui permettra bientôt à la Suisse, par cette ratification, d'apporter sa contribution à une meilleure gouvernance mondiale. Avec près de 190 conventions, l'OIT a tissé la trame de la justice sociale. Deux récentes déclarations, celle de 1998 sur les principes et les droits fondamentaux au travail et celle de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, viennent couronner cet édifice. En acceptant la déclaration de 2008, les États et les gouvernements se sont engagés pour que les normes fondamentales de l'OIT soient universellement ratifiées et appliquées. Mais le défi reste, le défi est constant, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas baisser les bras, à poursuivre vos efforts pour concilier justice, liberté et protection sociale. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements.